BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, bonjour à tous, bienvenue, vous êtes en direct sur BFM Business. Il est 9h30 pile, on est ensemble pour une heure de débat et de controverse avec une question importante ce matin. Une question structurante dans le débat public qui commande encore le récit économique. À Aix-en-Provence, en rencontre économique, Sébastien Lecornu a fait cette confession étonnante. Il a reconnu une défaite culturelle. Et c'est vrai qu'après le départ de François Bayrou l'année dernière, en quelques jours seulement, eh bien, on est passé du redressement des comptes publics par la dépense, par les économies, par l'effort, à une taxation des riches. L'entreprise est redevenue une proie, l'outil de production, une assiette fiscale. Et aucune réponse en face. Pourquoi ? Parce qu'on cherche encore notre Zucman pro-business. Où le trouver ? Ce sera le premier thème des débats aujourd'hui avec mes experts. Et puis on parlera héritage aussi, grande fortune, mécénat patriotique ou impôt déguisé. C'est la proposition de Philippe Aguillon reprise par Sébastien Lecornu, encore une fois, aux rencontres d'Aix. On va débriefer un peu ce matin. Mais faut-il orienter les successions des grands milliardaires de ce pays vers des fonds d'intérêt public et sinon à défaut les taxer très fortement. On verra ce qu'en pensent mes experts. Et puis on partira aussi du côté des États-Unis qui fêtaient le 250 ans de leur indépendance. On va voir si le modèle américain est toujours un modèle de puissance, bon ça certainement, mais aussi un empire à crédit. Et puis dernier thème des débats, on revient en Europe, les méga deals repartent, les champions se cherchent. Reste à savoir si elle rachète sa place dans la mondialisation ou si elle continue de se vendre à la découpe. Voilà pour le programme du jour. Il est 9h passé de 32 minutes. C'est les experts. Allez, c'est parti. Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Patrick Artus, qui vient de rentrer tout juste.
Bonjour, Raphaël.
De plus en plus mal dans Paris, c'est catastrophique.
Ah, c'est épouvantable.
Ah, c'est épouvantable. Bonjour, Patrick, économiste et conseiller économique de la société de gestion Ossiam. Face à vous, Emmanuel Combes. Bonjour, Emmanuel.
Bonjour, Raphaël.
Professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à la Schema Business School. Et j'ai le plaisir d'accueillir Erwan Lenohan. Bonjour, Erwan.
Bonjour, Raphaël.
Fondateur de AKA Stratégie, mais aussi du mouvement Trop C'est Trop. On va en parler, hein. On cherche un nouveau Zucman Pro Business. Peut-être qu'on l'a autour du plateau. Mouvement que vous avez cofondé avec Eric Momy, le patron d'April, qui porte haut la voix du ras-le-bol patronal en ce moment. On va en parler. Tiens, Patrick, d'abord. Membre du Cercle des économistes, oui. On rentre tout juste de 3 jours intenses à Aix-en-Provence. Qu'est-ce que vous tirez des discussions, là, si on fait juste un petit tour rapide ?
Les sujets, c'était l'IA, qui était vraiment le sujet le plus fréquent dans toutes les tables rondes. La souveraineté et comment...
Moi, je trouve que c'est le mot des rencontres. Hein. Ouais. Souveraineté et...
souveraineté, voilà. Et puis, quelle stratégie pour arriver, un, à maîtriser la dette publique, deux, à faire les investissements colossaux qui sont nécessaires, et trois, à ne pas faire ça, c'est votre problématique, d'une façon qui soit défavorable à la dynamique économique. Quoi. Ça, c'est toute la question.
Une certaine défiance vis-à-vis des politiques, 8 candidats se sont déplacés à Aix. Hein, c'était des rencontres évidemment très politiques cette année. Beaucoup de défiance vis-à-vis des politiques.
Oui, mais les politiques ont été assez bien reçus parce que je trouve qu'ils ont eu un discours assez transparent et assez honnête. Quoi.
Oui. On a perdu la bataille culturelle.
Oui, la question, c'est quelle stratégie ? On sait qu'il faut qu'on réduise de 120 ou 130 milliards d'euros le déficit public pour stabiliser le taux d'endettement public.
Oui.
Donc, comment on fait ça ? En ne chargeant pas les entreprises et peut-être même en les déchargeant. Vous savez que en particulier les impôts de production sont 2 points de PIB plus élevés en France que dans les autres pays.
Oui.
Deux, en ne tuant pas la protection sociale. Et trois, en évitant une crise financière. Donc ça, c'est l'énorme enjeu du prochain quinquennat.
Évidemment. Erwan, même question. Vous y étiez, on s'y est croisé aux rencontres d'Aix. Qu'est-ce que vous en tirez ?
Moi, je retiens effectivement le thème de la souveraineté, qui est beaucoup revenu et qui me semble être un sujet qui révèle d'autres qui vont dominer les sujets présidentiels. C'est-à-dire, derrière, c'est cette idée que moi, je sens une souveraineté qui est en fait très défensive. Alors, on plaide de la souveraineté parce qu'on a l'impression que l'économie ne fonctionne plus et que les autres sont plus performants que nous. Et donc, la meilleure manière.
C'est quelqu'un, hein.
Bien sûr, de se protéger, c'est de dire souveraineté, souveraineté, fermons les frontières. Et en fait, c'est un concept qui est assez flou, qui a des définitions qui sont très vagues, très larges.
Peut-être diverses et variées, effectivement.
Absolument. Ouais, et puis, le politique, la présence des politiques à Aix, bien reçu, effectivement, avec des propos qui étaient intéressants, mais on sentait aussi, en même temps, qu'une certaine manière, on voit que l'entreprise ne croit plus aux politiques. Et je vais prêcher pour ma paroisse, mais le fait qu'il y ait trop, c'est trop, et d'autres initiatives, et la preuve qu'un grand nombre d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, ne se sentent plus représentés par le politique, et se disent qu'il faut prendre la parole, parce que le politique ne le fera pas pour eux.
Emmanuel.
Allez, je vais faire bref. Pour moi, la bataille culturelle, elle est perdue depuis longtemps.
Ah.
Donc, c'est pas. Alors, il y a en plus un facteur conjoncturel. Quand vous avez un gouvernement de coalition, de toute façon, lever de l'impôt sur les particuliers, c'est pas possible. Donc, on va taxer là où c'est le plus simple, c'est-à-dire les entreprises. Mais au-delà de l'économie politique.
On a eu un moment quand même à la sortie de François Bayrou, qui pendant 6 mois nous a expliqué. De manière assez pédagogique d'ailleurs, alors peut-être un peu anxiogène, c'est-à-dire que la sueur du sang et des larmes, on n'avait pas les nazis en face de nous, on a juste à redresser les comptes publics.
Et c'est le problème.
Mais en 48 heures, Gabriel Zucman a complètement effacé cet effort
pour
dire on va taxer les riches et puis voilà.
C'est le problème, on n'a jamais le vrai débat en France. Enfin, je trouve qu'on commence à l'avoir grâce à Philippe Aguillon. On parle des moyens, on parle jamais des fins. Je dis pas qu'il faut pas réduire les déficits publics, mais c'est pas une fin en soi. Or, nos hommes politiques, peut-être par une culture économique, nous parlent toujours du moteur. Regardez les débats qu'on a à longueur de journée sur comment va-t-on réduire les déficits. Je dis pas que c'est pas important. Je dis que ça n'est pas un projet. La question, vous venez d'en parler, Patrick, c'est réduire pour faire quoi? Pour préparer l'avenir, innovation, éducation, etc. En fait, ils se sont mis eux-mêmes dans la nasse, me semble-t-il, en axant tout sur la question de comment je fais pour réduire le déficit. Je dis pas qu'il faut pas le faire, ça n'est pas.
On n'a pas donné de sens à cet effort.
Mais ça n'a pas
de sens.
Parce que ça, ça s'appelle de l'économie. Et tant qu'on n'a pas des hommes politiques qui ont
vraiment.
C'est
pas que
c'est important. C'est tant qu'ils n'ont pas compris que le sujet, il est simple. C'est niveau première année, C'est la croissance éco. Comment vous faites de la croissance éco en allégeant les impôts de production? Mais on n'allège pas les impôts de production comme une fin en soi. C'est un moyen. Et on va avoir peut-être ce débat avec Erwan. Loin de moi l'idée de critiquer le mouvement. C'est très bien. Mais à nouveau, vous êtes français. Vous dites, finalement, c'est un mouvement corporatiste. En réalité, on n'est pas là pour réduire les impôts des entreprises. On est là pour avoir de la croissance. Un discours d'intérêt général. Et je trouve que quand même, le curseur est en train de changer, notamment grâce à Aguillon, avec ses mots de innovation. Et les Français comprennent, Innovation, IA, ça parle. Parce qu'ils utilisent Claude tous les matins. Vous voyez, si on a un débat sur les fins, et on les connaît, les fins, il n'y en a pas 50. Pour moi, il y en a deux. Il y a éducation, c'est l'alpha et l'oméga. Et deux, innovation. Si vous prenez le sujet dans ce sens, vous dites, voilà, si on veut libérer des marges de manœuvre pour préparer l'avenir, alors il est nécessaire, réforme des retraites, deux, réforme budgétaire. Mais on n'a pas ce débat en deux temps. On nous fait l'inverse. On nous dit, il faut économiser. Vous êtes français, vous dites, OK, mais pourquoi faire puisqu'il y a.
Si on me sucre 2 jours fériés, mais
puisqu'il y a une cagnotte cachée, il y a une cagnotte cachée qui s'appelle les entreprises. Donc je pense que les hommes politiques se sont mis un peu tout seuls dans la nasse.
Je voulais citer quand même ce discours de Sébastien Lecornu. Vous allez me dire s'il vous a surpris, Patrick Artus. Comment avons-nous pu être battus sur le terrain culturel? S'est interrogé le Premier ministre. Comment se fait-il qu'à l'automne dernier, ce que l'on appelle l'outil de production est apparu pour la majorité des élites politiques comme une simple assiette fiscale disponible? Et c'est vrai que ce retournement a été spectaculaire. Il vous a surpris, là, le Premier ministre?
Oui, enfin, la franchise était claire.
Ah oui.
Et c'est d'autant plus surprenant que, on le sait récemment, l'INSEE, vous savez, a fortement révisé les comptes de la nation sur les 3 dernières années.
À la hausse,
années,
2023
et 2024. Et on sait, depuis, que l'économie d'offres, ça marche. Donc, la baisse des impôts des entreprises, la baisse de la taxation des revenus du capital, les réformes du marché du travail ont fabriqué...
On a créé 2 millions d'emplois, quand même.
Une reprise industrielle, une reprise de l'investissement. On n'a plus du tout des chiffres très défavorables sur la production industrielle. On a des chiffres favorables sur l'investissement. Donc, la politique de l'offre, ça marche. Alors, le problème, c'est une course. Tout le monde se dit combien de temps encore est-ce que les marchés financiers vont prêter à la France à 70 points de base au-dessus de l'Allemagne et pas beaucoup plus.
Bon, je rappelle qu'on est à 3,61 sur l'OAT ce matin. Bah, tout va bien,
tout va bien, mais la question, c'est, il faut faire effectivement des politiques. Bah, on sait, depuis Draghi, toutes les études, on n'a pas attendu à Lyon. Enfin,
je suis d'accord, mais il porte le message.
Le message est passé que le problème de la France, c'est le sous-investissement, les dépenses de recherche-développement insuffisantes des entreprises. À Aix, il y avait beaucoup de représentants de la recherche fondamentale publique qui ont dit que la recherche fondamentale publique allait assez bien et était performante, créait des innovations. Donc, malheureusement, il n'y avait pas d'industrialisation.
C'est qu'il manque le chéneau avec l'entreprise, enfin la production.
C'était aussi un problème de nature privée. Du financement. On a très peu de venture capital, on n'a pas de fonds de pension, etc. Mais donc, le problème est analysé. Mais si vous résolvez le problème de sous-investissement et de dépenses de recherche et développement trop faibles, vous allez aggraver le déficit public. Et donc, comment on fait? Idéalement, il faudrait accepter un déficit public très élevé pendant 5 ans, 10 ans pour faire repartir l'économie, développer l'innovation.
Mais on a ce déficit très élevé, Patrick Artus.
Oui, mais le problème, c'est qu'on peut pas faire ça. Et donc, le problème, c'est, on est aujourd'hui dans un jeu à somme nulle. Donc, ce qu'on donne aux entreprises ou à l'innovation, on le prend, c'est le projet du MEDEF, on le prend aux retraités et on le prend à la protection sociale. Tant qu'on est dans un jeu à somme nulle, c'est très difficile politiquement.
Erwan Lenoir, vous avez, je l'ai dit, cofondé avec Éric Momy, le patron d'April, le mouvement Trop c'est trop. Comment est née cette histoire ?
Alors, je vais en revenir, puis ça va me permettre de rebondir sur ce que disait Emmanuel à l'instant. Le mouvement, c'est justement dans les débats sur le PLF 2026, donc en novembre dernier, il y avait la bataille culturelle du moment était uniquement de savoir qui on allait taxer et comment taxer toujours plus les entreprises. Et là, on a écrit une tribune qui a très rapidement rencontré du succès, a été signé par quelques milliers d'entrepreneurs de toutes les tailles d'entreprises. Et là où on a compris qu'il y avait quelque chose qui commençait à prendre, c'est qu'on a reçu des emails de toutes petites PME, d'artisans qui nous disaient « nous, on signe ». Parce que, pour dire « ça suffit », non pas « ça suffit » d'un point de vue corporatiste pour le coup, mais vous êtes en train de tuer la croissance. Les entreprises sont ce qui porte la croissance. Et si vous n'arrêtez pas de taxer, on ne va pas tenir. Et à partir de là, le mouvement a pris, le Premier ministre nous a répondu et on a décidé de s'organiser en association. On n'est pas un parti politique, on intervient dans le débat politique, mais on ne fait pas de la politique.
Oui, les petits patrons qui signent contre l'impôt, moi ça me rappelle un peu une certaine époque. Est-ce qu'il y a un fonds poujadiste sur trop c'est trop?
Non, je crois pas qu'il y ait de fonds poujadistes. Il y a un fonds pour le coup et de d'entrepreneurs qui s'inquiètent de voir ce que le pays est en train de devenir d'un point de vue économique. Comme on n'est pas un mouvement politique, notre seul message est sur la croissance par les entreprises. On ne va pas sur les autres sujets, on n'a pas de légitimité pour ça et on n'a aucune intention. Mais là, par exemple, on vient de publier une étude faite par des 6 économistes, dont Nathalie Janson qui intervient régulièrement ici.
Et Erwan Tison qui nous l'a présenté la semaine dernière.
Antoine Lévy, Olivier Rodouès qui viennent de publier une étude contre la taxe Zuckman et qui démontre que si elle était mise en œuvre, non seulement elle ne rapporterait pas 25 milliards, mais au contraire, elle coûterait près de 10...
Oui, c'est vrai, d'ailleurs.
Elle coûterait 17 milliards de recettes fiscales par an. Et notre message, et celui-ci, c'est de venir aider éclairer le débat public du point de vue des entreprises. Parce qu'on voit bien que ce qui se prépare, c'est à nouveau un débat dans lequel la bataille culturelle est relativement déjà perdue d'avance. La seule question qu'on se pose, c'est qui on va taxer. Vous posiez la question de réaction à ce que disait le Premier ministre, la bataille culturelle est perdue. Mais il en est, d'une certaine manière, son expression en était la preuve. Il a commencé par dire, il va bien falloir que les riches fassent quelque chose parce qu'il y a beaucoup trop d'inégalités dans ce pays. À partir du moment où vous dites qu'il y a beaucoup trop d'inégalités dans le pays, vous êtes la preuve que la bataille culturelle a été perdue. Parce que vous inscrivez dans le narratif de l'adversaire.
Excuse-moi, Erwan, c'est ce que je disais exactement tout à l'heure. Pardon, c'est très bien d'avoir fait ce contre-rapport. Il y avait déjà eu le rapport du CAE qui divisait le rendement de la taxe par 4.
Absolument, on a reçu Xavier.
Mais pardon, c'est pas une critique, c'est pour débattre.
C'est 5 milliards maximum.
Tu réponds finalement à l'argument, tu légitimes quelque part la taxe Zuckman en montrant qu'elle ne marchera pas. Pour moi, le sujet, c'est pas taxe Zuckman ou pas taxe Zuckman, c'est à supposer même qu'il y en ait une. À supposer même, tiens, mettons-nous dans le scénario où ça marche. C'est 20 milliards, je crois.
25 milliards, oui.
La question, c'est pour faire quoi ?
Absolument.
Pour faire quoi ? Moi, j'aurais un discours complètement sur le projet. Et là, le français, il peut comprendre. Parce que si vous dites la taxe Zuckerman, ça marchera pas, mettez-vous à la place du français qui est pas forcément économiste, ils vont dire, OK, c'est ton opinion. Il y en a un qui dit plus 20 milliards, le CAE dit plus 5 milliards, le nouveau mouvement avec son étude d'experts montre moins quelque chose. La balle au centre.
Pour faire quoi, ça, on sait toujours quoi faire des recettes. On va vous redonner du pouvoir d'achat.
Justement, assumer.
Assumer. La vie sera meilleure, parce qu'on fonctionne plus. C'est toujours le même discours.
Assumer l'idée, qui pour nous est évidente, qui ne l'est pas pour les Français, que la croissance, ça se construit avec deux piliers, éducation, innovation. J'en connais pas d'autres. Donnez-moi d'autres éducation au sens large, hein. Formation, taux d'emploi, etc. Tant que vous n'aurez pas ce discours-là rentré dans les esprits, ça ne marchera pas. Parce que ça passe pour un débat entre économistes. Et on vous dit, OK, vous dites ce chiffre-là, l'autre me dit l'inverse. Moi, j'aurais dit la taxe Zuckerman, à supposer même qu'elle soit mise en œuvre, ça n'est pas le sujet. Le problème de la France, ce n'est pas les inégalités. Le problème numéro un de la France, c'est qu'on n'a pas assez de croissance parce qu'on a un taux d'emploi trop faible, etc. Enfin, ça a été dit par Patrick 1000 fois dans les échos. On le sait, ça. Mais ça ne percole pas dans le discours politique.
Patrick.
Il faut réaliser que la classe moyenne souffre, tant qu'en France, hein, mais oui. Dans les pays de l'OCDE. Mais en France, on a un problème d'emploi. Il y a un niveau d'éducation qui a beaucoup augmenté, mais il n'y a pas les emplois correspondants. Le marché du travail se bipolarise. On crée des emplois très qualifiés ou très peu qualifiés, et on détruit des emplois intermédiaires. Et ça, c'est très mauvais pour la classe moyenne. Elle a une pression fiscale très importante. Hein, c'est le débat sur le brut, le net.
Oui, rapprocher le net du brut, bien sûr.
Voilà,
le net est beaucoup plus fiscal au social, comme on dit, parmi les plus élevés de l'OCDE.
Il n'y a plus d'ascenseur social. Hein, l'INSEE publie des tables de destinée qui montre que si vous êtes enfant d'ouvrier et d'employé, vous êtes ouvrier et employé avec une probabilité très très élevée.
Oui.
Et donc, il ne faudra pas que réparer la croissance, il faudra réparer la situation de la classe moyenne. Parce que si vous laissez la classe moyenne dans cette... Et puis plus le prix du logement, hein, qui est un facteur essentiel d'appauvrissement de la classe moyenne. Si vous laissez la classe moyenne s'appauvrir, la classe moyenne, elle va devenir populiste. Et donc, elle va voter aux extrêmes, à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Et vous n'aurez plus du tout de voix pour les partis sérieux qui prônent le retour de la croissance, R&D, l'effort de recherche, l'effort d'investissement. Mais vous aurez des politiques populistes, et les politiques populistes vont faire des...
On a 50%
les politiques populistes, c'est baisser la durée du travail sur la vie, c'est avancer l'âge de la retraite, c'est augmenter les prestations sociales, et c'est certainement pas...
C'est orthogonal avec
Donc, à la base de ça, à nouveau, il y a le dépérissement et l'appauvrissement de la classe moyenne, et tant que vous ne le corrigerez pas, vous aurez un problème politique qui est la France se dirige aux extrêmes politiquement.
Ben oui,
Manuel. Je rejoins Patrick, quand je parlais d'éducation, c'était essentiellement la reproduction sociale.
Oui.
Vous pouvez taxer les riches autant que vous voulez. Vous pouvez taxer les riches autant que vous voulez, tant que vous n'avez pas réformé structurellement l'école pour remettre de l'ascenseur social, vous ne résolvez pas le problème. Donc, ce que j'entends par éducation, c'est pas seulement que plus de personnes soient bien formées, c'est aussi ce sujet qu'évoque Patrick. La France n'a jamais été aussi inégalitaire au sens de reproduction destinée. Mmh. Ça, c'est quelque chose dont tous les Français s'aperçoivent chaque jour.
Alors, dans cette idée d'égalité réelle des chances, c'était un texte qui avait été porté par Dominique Strauss-Kahn au tout début des années 2000. Il y avait l'éducation, évidemment, l'idée que il n'y a pas à être égalitariste, puisqu'il y en a des meilleurs que d'autres, donc qu'ils aillent à la course. Par contre, qu'on soit tous sur la même ligne de départ. Et ça, c'est le sujet, Erwan Lenon, des successions, de l'héritage, parce qu'on n'est pas tous dans les mêmes familles. Et donc, ça a été évoqué, ça aussi, aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, par le Premier ministre, qui a repris une proposition de Philippe Aguillon, qui est que, plutôt qu'un nouvel impôt sur la fortune, pourquoi ne pas orienter une partie des très grands héritages vers la recherche, l'éducation ou la défense, par le biais de fonds d'investissement public, dirigés, orientés vers la prospérité commune. Soit les grandes fortunes mettent leur argent dans ces fonds, soit elles sont taxées très durement. Sébastien Lecornu a dit chiche, et même dès le prochain projet de loi de finances. Est-ce que c'est une bonne idée, ça, Erwan Lenoir?
Dès lors qu'on considère que la raquette est une bonne idée, oui. Mais en réalité, c'est du racket. Soit vous payez, soit vous êtes taxé.
Oui.
Donc ça revient à la. C'est pas la bonne. Moi, je suis. J'ai plaidé pour l'impôt volontaire. Donc je pense que c'est une bonne chose. Mais c'est, donc d'inciter les grandes familles françaises ou les plus grandes fortunes françaises à contribuer. Mais d'abord, elles contribuent déjà énormément fiscalement. Donc est-ce que ça vient alourdir ce qu'elles donnent déjà ou est-ce que c'est en déduction? Tout ça n'est pas bien clair. Est-ce que c'est un impôt fléché? Ou est-ce que c'est un don contraint?
C'était la grande question et le grand débat parmi tous les participants et les chefs d'entreprise. C'est est-ce que c'est un nouvel impôt ou pas? Ou est-ce que c'est un moyen de contourner la taxe Zuckman encore une fois?
Tout ça reste très vague. La justification qui est que les inégalités me semble aussi pas être la bonne. Si on dit qu'il faut que les grandes fortunes françaises fassent plus œuvre de philanthropie, elles en font déjà, mais comme c'est possible aux États-Unis et notamment sur les transmissions, ça suppose par exemple de supprimer la réserve héréditaire, c'est-à-dire ce principe qui oblige...
La véritable problème, c'est ce que dit Pierre-Édouard Sterrin, c'est ce que dit Xavier Niel, c'est qu'ils sont obligés de transmettre à leurs enfants alors qu'ils voudraient laisser quelques centaines de millions. Hein,
tout exactement, le giving pledge qui existe aux États-Unis où les grandes fortunes dit on transmet dans un but d'intérêt général. En France, ça n'est juridiquement pas possible. Oui. Et donc, l'initiative portée par le Cornu, moi, me semble très vague. La manière dont elle est argumentée me semble pas la bonne. Par contre, si l'objectif est de faire en sorte qu'il puisse y avoir augmenté les philanthropies, ça me semble être une très bonne chose.
Patrick Artus, bonne ou mauvaise idée?
Je suis très favorable à l'idée qui est défendue par Philippe Aguillon et le Cornu et à l'idée qui a été défendue par le Cercle des économistes dans la déclaration finale d'Aix, qui est, alors, l'idée d'Aguillon, donc c'est pas une taxation, hein, c'est du fléchage de l'argent de l'héritage.
Bon, le flingue fiscal sur la tempe.
Oui, mais les héritiers resteront propriétaires de l'argent. Donc simplement, il y a un fléchage de l'utilisation de l'argent. Donc c'est pas du tout de
c'est pas de la confiscation, c'est pas de la spoliation. Ça n'est pas du racket.
Et même cet argent sera bien investi et il aura un rendement probablement très élevé.
Est-ce qu'on sait qui gère la gouvernance? Qui gère l'argent?
Ma question, c'est très compliqué parce que d'abord, il y a une très grande partie des héritages qui est utilisée pour investir dans l'innovation, dans l'investissement dans les start-up. Il y a les family office qui investissent dans des entreprises de création. Donc, voilà. Et donc, je suis assez favorable à la seconde proposition qui a été faite par le Cercle, qui est d'utiliser une taxation vraiment des héritages pour donner un capital initial à tous les jeunes Français. Quand ils atteignent 18 ans, ce qui leur permettra de créer une entreprise,
de payer
des études plus longues, etc. Le problème, c'est la concentration du patrimoine. Et le patrimoine se concentre et il se transmet, cette concentration est alimentée par l'héritage. Vous savez qu'aujourd'hui, plus de 60% du patrimoine est hérité. En 1970, c'était 30%. Si on ne fait rien, on va retrouver la situation du début du 20e siècle où 90%... C'est une société d'héritiers, c'est une société de rentiers. C'est pas une question politique, c'est une question de dynamisme économique. Une société de rentiers n'est pas dynamique. Oui. Et donc, on aurait tout à gagner à distribuer une partie du patrimoine sur une base très très large à tous les jeunes qui en s'en serviraient probablement pour se former, pour continuer leurs études ou pour créer une boîte. Et ça, je pense que c'est un projet beaucoup plus facile à mettre en œuvre que le projet d'Aguillon, qui est très compliqué dans la gouvernance. Quoi.
Erwan, puis Emmanuel.
Non, mais je comprends l'objectif de l'égalité d'échange et créer des associations qui aident les jeunes des quartiers à réussir, à tenter les grandes écoles et les réussir. Et je pense qu'il y a un vrai sujet de mobilité sociale dans ce pays. Par contre, ce raisonnement, il a un défaut, c'est que le postulat n'est pas le bon. Ce qui empêche la mobilité sociale aujourd'hui en France, ça n'est pas que la puissance publique manque de moyens. Elle a jamais eu autant de moyens.
Les pays peuvent dépenser
au moins.
Et pourtant,
il y a toujours moins de mobilité sociale. Ce qui empêche la mobilité sociale, c'est pas qu'il n'y ait pas assez d'État. C'est qu'il y a beaucoup trop d'État. C'est que le système scolaire est sclérosé par des gens qui connaissent, par le défaut de concurrence, par des gens qui savent comment ça fonctionne et qui profitent de leur rente d'information. Ce qui réussit le mieux dans le milieu scolaire aujourd'hui, les gosses de riches, parce qu'ils ont les moyens d'avoir les informations, et les fils de profs, bien mieux que les gosses de riches à certains niveaux, parce qu'ils connaissent le système. C'est pas en mettant de l'argent que ça va changer. Exactement. Ce qu'il faut changer, c'est mettre de la concurrence dans ce système, c'est faire en sorte que la dépense publique soit plus efficace. Mettre de l'argent dans un truc qui ne marche pas, ça ne fera pas fonctionner.
Oui, je reprends mon idée tout à l'heure. À nouveau, nous confondons les fins et les moyens. La question n'est pas de savoir est-ce qu'on prélève des recettes supplémentaires en l'espèce à l'occasion de transmission. Hein. C'est quand même mieux, me semble-t-il, que de taxer les entreprises, parce que ça, il y a quand même une utilité sociale. Donc c'est un second baisse, mais ça résout toujours pas le sujet. Donc vous allez prélever. que vous allez faire avec cet argent? Vous allez l'investir dans l'éducation nationale qui ne fonctionne pas? Donc prenons le problème à l'endroit. Quelle est la bonne réforme?
On pourrait commencer par renforcer le salaire des profs, notamment, pour augmenter le niveau.
Oui, on peut en discuter. Quelle est la, je pense qu'on prendra la hausse, je suis fonctionnaire et professeur, on prendra la hausse de salaire, je suis pas sûr qu'on prendra la contrepartie qui va en face. Donc attention, quel est le deal global? Mais pour revenir au sujet, quel est le projet de réforme de l'école?
Ben oui.
J'ai fait 3 ans de cabinet ministériel à l'éducation nationale, j'ai vu un système, à mon sens, irréformable. Mais ça, on pourrait en parler des heures.
Pourquoi?
Parce que il y a trop d'intérêts corporatistes, premièrement, et la solution est tellement, et Erwan l'a un petit peu évoqué, la solution est tellement disruptive qu'elle est quasiment impossible à mettre en œuvre.
C'est passé par le privé.
Ça s'appelle la concurrence entre établissements. Et ça, bien sûr, personne n'en veut. Mais restons sur le sujet. Pour moi, le sujet, c'est quel est le projet pour une école qui fonctionne? Quel est le projet pour une innovation? Parce qu'on peut en parler aussi d'innovation qui marche pas. Un certain nombre de programmes publics qui sont très discutables, hein, le crédit impôt recherche, etc. Et une fois qu'on a résolu ça, alors, pourquoi pas, en seconde best, se dire, eh bien, puisqu'on a des finances publiques qui sont fragiles, allons taxer les riches. Mais à nouveau, je le vois comme une réponse à la taxe Zuckerman. De toute façon, on est obligé d'avoir une réponse face à la taxe Zuckerman.
Tout tourne autour de tout le monde. C'est quand même dingue.
Elle fait consensus. Je pense que je suis sûr que si on faisait un sondage, je sais pas s'il a été fait, je pense que la majorité des Français, ils sont favorables.
La grande
majorité. Il y a eu des sondages partout.
Tout le monde a
donc, il faut y répondre.
Mais à nouveau, c'est évident, il suffit de taxer 8 personnes.
Mais pardon, on retrouve notre débat tout à l'heure. On va avoir un débat sur qui on taxe, ouais. Alors que le vrai débat, c'est pour faire quoi.
Mais ça, c'est aux politiques de donner la réponse. Et pas aux entreprises.
Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'à mon avis, il y a un déficit d'éducation économique.
Patrick Artus.
Bon, je pense que le système éducatif est clé. Hein. Et alors, contrairement à une idée reçue, la France dépense peu dans le système éducatif. Si vous regardez les dépenses d'éducation et que vous enlevez les retraites des enseignants, la France dépense au moins un point de PIB de moins sur son éducation que la moyenne des pays européens.
Un point de PIB, c'est 30 milliards d'euros.
C'est 30 milliards. Ça, on dépense 3,5 de PIB hors de retraite, parce qu'il faut faire des choses comparables, et les autres pays, c'est au moins 4,5. Et dans certains pays, 5. Et dans les pays qui vont bien, qui ont des systèmes éducatifs performants, les pays du Nord, hein, le Danemark, la Finlande, la Suède, etc. Alors, pour regarder la qualité du système éducatif, il y a un indicateur qui est très, très, très pratique, c'est la proportion de NEETs, hein, de jeunes qui sortent du système éducatif sans emploi, sans formation,
etc. Sans diplôme.
On est à plus de 12% en France, on est autour de 5% dans les pays du nord de l'Europe.
On a entre 1 million et 1 million et demi de gamins qui n'ont absolument aucune formation ni diplôme.
C'est 12,5% des
15-29 ans. Et donc le taux d'emploi.
Enfin, effectivement, ça déprime le taux d'emploi des jeunes, etc. Alors, on sait faire. Donc, il faut rendre les carrières de prof attrayantes. Donc, il va falloir plus d'argent public, curieusement. Et puis, il faut se dire que il faut regarder ce qui marche. Regardez le système finlandais. Le système finlandais marche très bien. Le système suisse marche très bien.
C'est pas
des systèmes extravagants. Les enfants se suicident pas comme en Corée. Et donc, simplement, on enseigne différemment. Et donc, il faut copier les expériences étrangères qui marchent et mettre de l'argent.
Oui.
J'ai un petit doute sur le coût de la transition, et sans vouloir offenser les professeurs, et je suis moi-même professeur, on est dans un équilibre où on est assez peu payé, avec des obligations finalement relativement faibles. Il faut passer à un équilibre où on est très très bien payé, car on oublie de raconter la fin de l'histoire. En Allemagne, un professeur de lycée, par exemple, est payé, je crois, à peu près 30 à 50% plus.
Oui,
qu'en
bien
France.
Sûr.
Oui, mais il y a des obligations en contrepartie. C'est toujours compliqué de passer d'un système à l'autre. En fait, il y a deux équilibres et on est enfermé dans un équilibre où on se dit, je suis pas très très bien payé, mais j'ai quand même un certain nombre de latitudes qui n'existe pas forcément dans un système réformé. Comment vous passez d'un système à l'autre, si ce n'est peut-être en misant sur les nouveaux entrants, nouveaux contrats. Mais ça risque de créer une dualité au sein de l'éducation nationale. Vous avez quand même un coût de la transition d'un modèle à l'autre.
Toujours. Bah, il faut payer pour transformer, c'est ce qu'on dit souvent.
Un coût en termes de résistance, pas seulement de monétaire.
Et donc, il faut un peu de volonté politique. Allez, ne quittez pas, on se retrouve dans une minute. On va parler du modèle économique américain. Les États-Unis viennent de fêter les 250 ans de leur indépendance. Le modèle américain est-il encore un modèle? Ce sera le prochain débat. Et puis, on va revenir sur les chiffres spectaculaires du M&A qui est en pleine forme. Les fusions, acquisitions ont augmenté de 49% dans le monde en valeur et près de 90% aux États-Unis. C'est peut-être un indicateur de la puissance économique américaine. Ne quittez pas, on se rejoint tout de suite.
BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, il est 10h passé de 1 minute, c'est la seconde partie des experts avec toujours autour de la table Emmanuel Combes, Patrick Artus et Erwan Lenoant.
pour parler des 250 ans de l'indépendance des États-Unis. C'était ce samedi, le 4 juillet, 4th of July. Le modèle américain est-il encore un modèle? C'est la question que je vous pose à tous ici. Un modèle qui s'est réinventé énormément autour de la technologie, de l'énergie, mais aussi de la dette, Patrick Artus. Le modèle américain est-il plus puissant aujourd'hui qu'il n'était il y a 20 ans?
Le problème, c'est que les caractéristiques du modèle américain qui le rendent puissant sont inacceptables en Europe. Le modèle américain, il est basé sur les inégalités. Oui. Et donc, on ne distribue pas les gains de productivité aux salariés, les gains de productivité abondent les profits des entreprises. Donc, les entreprises ont une profitabilité très, très élevée, bien supérieure à celle des entreprises européennes, qui distribuent les gains de productivité à leurs salariés.
Ouais.
Et donc, il y a une capacité d'investir, de faire de la recherche, etc., très, très élevée aux États-Unis.
Mais il y a des salaires aussi beaucoup plus élevés. On a l'habitude de dire sur ce plateau que si on a vu la productivité américaine pendant 20 ans, le salaire moyen en France ne serait pas de 2200 euros, mais de 3300.
Mais c'est...
Donc, tout le monde en profite,
mais il faut voir le point de départ. C'est la capacité d'investir et de faire de la recherche. Les entreprises américaines font presque 3 points de PIB de recherche-développement. Les entreprises françaises, 1,5 point. Donc, c'est 1 à 2. Et donc, quand vous faites plein de recherches, ben, vous trouvez. Et en plus, vous avez de l'aide publique à la recherche qui est très bien organisée aux États-Unis.
Et pas de principe de précaution.
La DARPA, etc. Et donc, c'est normal que les États-Unis prennent de l'avance sur l'Europe dans tout ce qui est technologique. Mais à nouveau, le moyen de cette avance, c'est la capacité d'investissement des entreprises et puis des marchés financiers extraordinairement développés avec des fonds de pension, avec du venture capital qui lève entre 100 et 200 milliards de dollars par an. Enfin, et donc il y a la capacité de financement, la capacité d'investir. Et donc, du coup, il n'y a plus de problème de financement, puisque même si vous avez un déficit public, un déficit extérieur absolument colossal, vous êtes suffisamment attrayant pour capter l'épargne du monde. Hein.
Ça a été un sujet quand même, le déficit pour Trump. Hein, il a mis en place ses tarifs aussi pour réduire ce déficit. Je rappelle qu'on est à plus de 1000 milliards de dollars de déficit.
Oui. Mais est-ce que ça peut craquer? Est-ce qu'il peut y avoir une grosse crise financière aux États-Unis? Ce qui peut faire une crise, c'est une grosse déception sur la rentabilité des investissements dans l'IA. Puisque c'est les boîtes de l'IA.
Il y a des questions en ce moment sur. Parce que l'IA coûte cher.
Ça coûte extrêmement cher. Il y a 800 milliards de dollars investis cette année, 1000 milliards de dollars investis par un tout petit nombre d'entreprises.
Les chiffres sont dingues.
Et donc, si la rentabilité n'est pas au rendez-vous dans quelques années, il y aura une crise financière aux États-Unis.
Vous pensez qu'il y a une mule sur l'IA, Patrick Artus?
Mais on ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas si ces investissements. C'est des investissements qui déboucheront sur des profits dans une dizaine d'années. La composante IA de toutes les boîtes de la tech est en perte. Et les boîtes de l'IA, comme OpenAI,
qui font deux fois
leur chiffre d'affaires. Et donc, on ne sait pas si on aura une explosion de la profitabilité dans 10 ans de ces boîtes, ce qui avalisera leur cours boursier, leur attractivité pour les investisseurs, ou s'il y aura un dégonflage des anticipations et une crise financière liée à l'IA.
Pour l'IA, tout va dépendre de la capacité à diffuser l'IA, parce que c'est là que ça va devenir rentable. C'est toutes les applications particulières dans les entreprises qui permettront de rentabiliser les investissements. Mais pour répondre à votre question, ce que je trouve vraiment super intéressant depuis 10 ans, 15 ans, c'est qu'on voit à nouveau deux visions d'innovation. Et ça, c'était bien montré d'ailleurs dans pas mal de rapports. Je pense qu'il y avait un rapport de Tirol l'année dernière. L'Europe, elle fait quoi? De l'innovation incrémentale.
Oui.
On n'a pas de nouveaux géants. C'est le géant d'hier qui fait la version 12 du produit numéro 11. Alors que vous regardez aux États-Unis, c'est cette capacité, je trouve, à faire des choix. Alors faire des choix, ça veut dire quoi? Ça veut dire renoncer aussi à un certain nombre, entre guillemets, d'industries. Regardez l'automobile américaine, si vous laissez Tesla de côté, c'est pas formidable.
Oui.
Mais on fait des choix, on va au bout des choix et on est dans l'innovation radicale. Et quand vous regardez les orientations de l'investissement, c'est quoi? Biotech, bien sûr IA, plus généralement d'ailleurs tout ce qui est numérique au sens large, hein, services financiers, etc. Vous voyez, je pense que c'est la différence fondamentale. On ne sait pas, en Europe, faire de l'innovation disruptive, ou en tout cas la faire croître. Parce que comme le disait Patrick, on est assez bon en recherche fondamentale. On sait créer des startups. La question, c'est pas a-t-on des startups, c'est a-t-on des nouveaux géants? Cherchez-les en Europe. Très honnêtement, il n'y en a quasiment pas dans la tech. Ou alors, c'est des géants qui vont être au niveau national. Voyons, on va avoir un Doctolib qui va se dire ensuite à cause de la fragmentation du marché européen.
La fragmentation du marché. On est d'accord. Comme pour les marchés.
Mais c'est pas que ça. Enfin, ça suffit pas de dire les Américains ont un grand marché. Ils ont un grand marché et ils ont cette idée sur laquelle.
Mais c'est piloté. Ce que vous nous dites, c'est une stratégie industrielle.
Finalement, c'est la destruction créatrice. Il faut accepter de faire des choix et préparer l'avenir. C'est aussi renoncer au passé. On ne sait pas faire ça en Europe.
Comment le modèle? Bon, les États-Unis, c'est dans l'imaginaire collectif le pays du libre-échange, du libéralisme pur et parfait. C'est pas tout à fait le cas. On le sait depuis le bouquin de Philippon, hein, The Great Reversal. Et là, ils sont en train de devenir très franchement protectionnistes, les États-Unis. Comment on explique cette bascule?
Mais je pense que c'est là aussi le postulat est faux. C'est-à-dire que les États-Unis ne sont pas un grand pays de libre-échange. Mmh. Ils ont pu avoir des périodes de libre-échange et puis ils ont eu des grandes périodes d'isolationnisme, des grandes périodes de fermeture, notamment entre les deux guerres au XXe siècle. Je vous rappelle qu'il y avait des quotas d'immigration très élevés, qu'il y avait que la politique de Roosevelt, avant qu'il soit contre train d'être emmené dans la guerre, était très isolationniste. Donc il y a ces deux traditions aux États-Unis. Il y a une tradition d'ouverture et une tradition également de fermeture. Aujourd'hui, c'est clairement la tradition de fermeture qui prend le dessus. Mais ce n'est pas spécifique. Je ne crois pas que ce soit contradictoire avec avec l'histoire des États-Unis.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont pragmatiques.
Ça veut dire qu'ils sont pragmatiques, mais que comme tout le monde, ils sont pétris de contradictions et que ils savent évoluer. Par contre, ce qui fait la force du modèle américain, je pense, c'est effectivement d'aller là où est leur intérêt. Emmanuel disait aux États-Unis, on a su faire des choix. En fait, le marché a fait des choix parce que c'est le marché qui domine. Il y a des différences culturelles qu'il ne faut pas nier. Je ne pense pas que, évidemment, le modèle américain ne peut pas être répliqué sur le modèle européen. Mais il n'empêche, on parlait d'éducation, ils ont les meilleures universités du monde, ils ont les meilleurs centres d'innovation. Il y a toujours, les États-Unis, c'est ça, c'est une capacité de conquête. C'est cette idée qu'il y a la nouvelle frontière qui est toujours derrière à aller chercher. Ça s'explique pour des raisons historiques qui sont profondes. On n'a pas cette culture-là en Europe, mais c'est ça aussi qui fait qu'il reste ce pôle d'attraction et d'attractivité mondiale.
Il y avait des travaux très intéressants de Stéphanie Stancheva qui montraient qu'aux États-Unis, tout le monde pensait qu'il pouvait faire fortune, alors que dans la réalité des faits, il y a finalement moins de mobilité sociale qu'en Europe, et que c'était exactement l'inverse en Europe. Ouais. On a l'impression que l'ascenseur social est condamné, alors qu'en réalité, on peut progresser plus facilement et plus rapidement qu'aux États-Unis. Ça, c'est quand même étonnant, Patrick Artus.
Mais il faut voir que le modèle américain, il est basé sur les monopoles. C'est les travaux de Thomas Philippon. Si vous ne distribuez pas vos profits, enfin, vous ne distribuez pas de hausse de salaire, le salaire médian en termes réels aux États-Unis a augmenté de moins de 1% par an, alors que la productivité a augmenté de 2,5% par an depuis 20 ans. Donc, vous distribuez un tiers des gains de productivité, vous les gardez les deux tiers en profit, et puis, en plus, vous avez des rentes de monopole. Regardez Nvidia, il y a un taux de marge absolument monstrueux, mais ils ont un monopole sur les...
Oui.
Bon, et donc, si vous avez des rentes de monopole plus un partage des revenus extrêmement favorable, vous avez d'énormes moyens. Alors, le problème, c'est le futur, parce que ces énormes moyens, les grandes entreprises américaines étaient spécialisées. Enfin, je veux dire, dans la tech, vous voyez, Apple ne faisait pas la même chose que... Aujourd'hui, ils courent tous...
Ils peuvent marcher un peu sur les pieds et ils se posent
tous, d'ailleurs... Alors maintenant, ils courent tous vers le même but, qui est avoir un modèle d'IA dominant. Et ça, c'est quand même une rupture. Et donc là, c'est l'inquiétude. C'est l'inquiétude, est-ce qu'il n'y a pas un surinvestissement massif et est-ce qu'il n'y a pas une surenchère entre ces entreprises alors qu'avant, elles avaient des secteurs d'activité très bien délimités.
Bon. Pour revenir sur la question du protectionnisme, moi je partage le point de vue d'Erwan. D'abord, les États-Unis sont un grand pays au sens
géographique.
Et mécaniquement, il y a une relation inverse entre la taille d'un pays et son taux d'ouverture. C'est pas un pays très ouvert, hein, même en situation de, entre guillemets, libre-échange.
Plus on est grand, plus on peut être autonome.
Ah oui, il importe relativement peu en pourcentage de son PIB. Et puis surtout, moi, je crois que ça vient de loin. Enfin, moi, j'ai toujours pensé que Trump 2, c'est pas un accident. Ça remonte aux années 2000-2010. Je veux dire, les travaux de David Autor sur le choc chinois. De mémoire, le premier choc chinois, ça doit être 2010-2012. Avec déjà Obama, hein, souvenez-vous, qui avait mis des droits de douane sur les pneus chinois.
Oui.
Il y a quand même cette idée sur laquelle il y a une nouvelle donne dans le monde. Et pour le coup, ils ont relativement raison. Hein, avec l'irruption de la Chine que personne, en tout cas, n'avait mesuré l'ampleur. d'ampleur. Alors pas tellement Chine, usine du monde, ça tout le monde était au courant. C'est Chine, pays technologique, oui, pays de high-tech. Et là, on voit bien que la réaction protectionniste américaine, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils ont fait des choix, et ils ont abandonné d'autres secteurs d'activité. Pour le coup, ils sont devenus importateurs nets. Mmh. Ils ont même perdu d'ailleurs leurs compétences. Ce qui explique que quand ils mettent des droits de douane, bah, finalement, tous les travaux des économistes, que font les Chinois? Bah, ils reportent finalement la taxe dans le prix parce qu'ils savent que les Américains n'ont pas de substitut. Donc attention, il y a aussi cette idée de cette prise de conscience depuis 15 ans, hein, qu'on a vu sous Obama, eh oui, sous Trump 1, sous Biden. Biden n'a pas remis en cause cette idée
Tout le monde a mené à la même politique,
que la Chine,
que vous nous dites,
que la Chine,
c'est une continuité.
On est largué technologiquement dans
juste
certains secteurs.
Trump le fait en nous mettant des baffes plutôt que nous.
Oui, mais je reviens sur le sujet chinois. C'est-à-dire, il y a l'idée que la Chine est une menace technologique dans certains secteurs hors numérique. Attention à cette image d'Épinal, les Américains sont forts en tout. Non, ils sont forts essentiellement sur tout ce qui est tech et numérique. Mais vous prenez l'automobile, pardon, à part Tesla, les voitures électriques, pardon, elles viennent d'où? Elles viennent essentiellement de Chine. Donc c'est cette prise de conscience qu'ils sont en retard. Et ce réflexe-là, il nourrit nécessairement un retour au protectionnisme.
Erwan, un dernier mot.
On va revenir en deux mots sur la différence culturelle. Vous citiez les travaux de Stancheva, il y a eu Tirol, il y a eu Alesina avant, mais c'est des raisons profondes. D'ailleurs, nous, on est un continent. Pourquoi est-ce que nous, on croit, les Européens, on croit moins au marché et on se défie plus de la liberté? Parce qu'on est un continent qui, depuis des centaines d'années, on se fout sur la gueule régulièrement. On a appris à ne pas faire confiance à nos voisins et à dire, si on le laisse faire, il risque de m'attaquer. Les États-Unis, il y a eu cette culture où il y avait la nouvelle frontière. Mon voisin m'emmerde, je me déplace à 100 km et je crée quelque chose de nouveau. Je crois que c'est des traits culturels qui expliquent ces différences aussi.
Bon, qui seront difficiles à modifier du coup, hein, Patrick Artus.
Le problème de l'Europe, c'est que même à Aix, on nous a rabattu les oreilles du grand marché européen, le marché unique, donc 450 millions de consommateurs. Donc si on regarde les travaux du FMI, sur les biens, les obstacles à la circulation des biens entre les pays européens, c'est l'équivalent d'un droit de douane de
42%. 40%, absolument.
Et pour les services, c'est l'équivalent d'un droit de douane de 110%. Vous voyez les problèmes du secteur des banques italiennes qui veulent s'implanter en Allemagne, et le gouvernement allemand fait tout pour que ce soit pas possible. Et donc, télécom, vous avez des télécom qui sont pays par pays.
Quarantaine ou une soixantaine
trois opérateurs télécom par pays. Donc il y a une segmentation. Il n'y a pas de grand marché. Il n'y a pas de grand marché du financement. Il n'y a pas de banque. Il n'y a pas de banque supranationale. Et donc en réalité, c'est une superposition de petits marchés segmentés. Et donc tant que ça ne sera pas corrigé, et l'évolution en particulier des Allemands ne va pas dans le sens de la correction, l'Europe n'aura pas de grand marché. Il faudra se résigner à avoir des tout petits marchés.
Et pour rebondir sur ce que disait Patrick, danger d'une fusion-acquisition en Europe, puisque si vous avez des petits marchés, cette fameuse comparaison que j'entends à longueur de journée aux États-Unis, il y a 3 opérateurs, il y en a 80 en Europe, on est fou en Europe. Non, on n'est pas fou, il y en a 3 par pays. Donc par définition, si vous avez des marchés domestiques et que vous fusionnez, et que vous passez de 3 à 2, eh bien vous... Attention, le vrai sujet en Europe, à nouveau on prend le problème à l'envers, faites le grand marché, une fois que vous aurez fait le grand marché, là, vous ferez des fusions, acquisitions domestiques. Mais à date, on est quand même essentiellement sur des marchés domestiques, en tout cas dans les services. Donc, vous voyez, le sujet est souvent mal posé. On nous dit, les Européens, on va y venir à ce sujet de concurrence, ils n'ont rien compris au droit de la concurrence. Mais non, ils ont très bien compris le droit de la concurrence. Simplement, les marchés sont nationaux. Si vous avez un marché national, toute opération de fusion est potentiellement dangereuse.
Alors, on va continuer. On va justement parler des fusions-acquisitions, puisque le marché repart très, très fort, plus 49% dans le monde en valeur. Une hausse de près de 90% aux États-Unis et l'Europe qui revient dans le jeu avec des très gros deals industriels. Là, on vient d'annoncer, par exemple, Thales qui rachète Exail pour près de 4 milliards d'euros. Question simple, est-ce que le réveil stratégique, est-ce que c'est le signe d'un réveil stratégique de l'Europe ou juste une vague de consolidation défensive?
Il y a plein de cas possibles. C'est ça qui est intéressant dans cette vague de fusion. Il n'y a pas un seul motif. Il y a un premier motif, c'est la bonne vieille consolidation. Typiquement, l'ascensoriste, je crois que c'est connu, hein. Qui va devenir numéro 1 mondial, je rachète le numéro 2 ou le numéro 3, c'est de la consolidation. Comme le marché est mondial, ça pourrait passer. Hein, toujours pareil, la taille du marché influe sur la décision des autorités de concurrence. Donc, on va avoir de la consolidation. Je crois qu'on voit beaucoup quand même d'opérations de diversification, de relais de croissance, notamment liés directement ou indirectement à l'IA. Oui. Schneider, Engie, etc. Donc, il y a quand même cette idée qu'on est devant une révolution industrielle. Alors, regardez, Engie, c'est intéressant. Hein. J'ai un marché qui est les data centers. Je vais racheter une boîte pour faire justement de l'électrification de data centers. Donc, il y a quand même cette idée qu'on est dans une révolution industrielle. Exel, même chose. Hein. Les drones, c'est quand même une révolution. C'est une autre manière de faire la guerre. Il n'y a pas 50 entreprises dans le monde qui savent faire des drones sous-marins. Bah, le premier qui passe à l'acte, qui passe
à la production, quoi,
va préempter le marché. Il n'y a pas 50 entreprises à racheter. Donc il y a quand même cette idée de nouveaux relais de croissance. Et puis quand même, pour les États-Unis, il y a cette idée, il y a des droits de douane. Si je veux les contourner, c'est la bonne vieille théorie économique. Je fais ce qu'on appelle du tarif jumping. Je passe par-dessus le droit de douane et j'ai deux moyens de passer par-dessus le droit de douane. Soit j'achète un champ, ça s'appelle du greenfield. Du greenfield, ça prend 3 ans. Soit je rachète un acteur local déjà implanté. Et de ce point de vue-là, c'est assez intéressant. On pourrait dire que la politique de Trump sur ce volet-là a plutôt réussi. Alors après, on pourrait dire, mais il y a d'autres moyens moins distorsifs pour attirer les investissements étrangers que de mettre des droits de douane. Il suffit en fait de faire des incitations fiscales. Mais on voit bien, par exemple, dans la pharma, c'est un sujet que je connais bien, dans la pharma, on voit bien les opérateurs vous dire, de toute façon, pourquoi est-ce qu'on exporte aux États-Unis, non pas pour fabriquer et exporter dans le monde entier, pour avoir accès au marché local, eh bien, on va faire soit un investissement greenfield, soit on va faire une merger, on va racheter des acteurs domestiques. Donc, les motivations sont multiples.
Ce bouillonnement, quand même, Erwan Lenoir, c'est le signe d'un retour de la confiance des entreprises ou simplement le fait que maintenant, on est à l'ère des géants et que donc, pour survivre sur le nouveau marché du capitalisme, il faut être costaud, quoi.
Je suis pas certain que ce soit un retour de la confiance. Je pense que c'est plutôt le signe d'une transition économique où il y a, comme le disait Emmanuel, de nouveaux modèles économiques qui émergent, d'autres sont en train de disparaître, et on a une reconfiguration où effectivement un certain nombre d'entreprises se disent pour exister dans la compétition internationale, et c'est aujourd'hui et celle qui vient, il faut grandir. La question est aussi celle dont parlait Emmanuel, c'est comment va se faire l'appréhension par le droit de la concurrence. Alors, j'en parle devant un ancien vice-président de l'autorité de la concurrence, donc j'y vais avec prudence, mais il me semble que la Commission européenne a donné des signaux montrant qu'elle était relativement, qu'elle commençait à réfléchir, à être ouverte. Ça va pas être une révolution, mais qu'il y a un certain nombre de signaux pour faciliter des consolidations dès lors qu'effectivement on s'engage vers un marché, vers une réalité d'un marché au moins qui n'est pas
un
que national.
Un peu plus de politique industrielle et un peu moins de bien-être du consommateur.
Non, je crois pas que ça soit. Mais je veux pas m'opposer la parole, mais en deux mots,
rapidement.
Une fusion, ça a deux effets. Ça peut faire monter les prix, ça peut faire baisser les coûts. Jusqu'à aujourd'hui, la Commission et d'ailleurs l'autorité de la concurrence, dont je vous ai parlé, ont regardé uniquement le risque de hausse de prix et on disait les gains d'efficience, tout ça, c'est spéculatif, c'est pas démontré. Or, intellectuellement, c'est faux, puisqu'une fusion peut avoir un effet sur la baisse des coûts. Et l'évolution du logiciel de la Commission, ça va être de dire si vous venez avec une démonstration, qu'il y aura bien des baisses de coûts, donc des gains d'efficacité qui viennent compenser l'atteinte à la concurrence, alors j'autoriserai la fusion. C'est juste un bon raisonnement d'économiste. Mais attention, on n'ira pas au-delà, on aura peut-être si dans certains secteurs stratégiques, défense, vers un argument de résilience. Ça n'est pas bon pour la concurrence, mais c'est compensable par un argument en termes de résilience économique, mais on n'ira pas tellement plus loin. Donc attention à ne pas trop surinvestir. Je vois pas la Commission dire, au nom d'une politique industrielle qui va faire émerger un géant et faire monter les prix, j'autorise une fusion. Pardon, pour l'économiste, être un géant n'est pas un signe nécessairement d'efficacité. Pour moi, un bon géant, c'est un géant qui a réalisé des gains d'efficience. C'est le fameux 1 plus 1 égale 3. Si se marier, c'est juste faire de la consolidation pour faire payer les consommateurs européens, en réalité, utiliser l'Europe comme une rente, pour partir à la conquête des marchés non européens.
C'est un peu ce qu'ont fait les États-Unis, non ? Ça renforce les boîtes, quand même.
Ça renforce les boîtes au détriment, quand même, du consommateur américain.
Ah oui, ça, bien sûr. Patrick Artus, votre analyse de ce nouveau boom du M&A, des fusions.
D'abord, c'est un boom très américain. En Europe, c'est entre 5 et 15% la hausse du montant des BNE entre 2024 et 2030.
Mais reviens dans le jeu un peu quand même. On sent que ça bouge sur le marché européen.
Oui, mais c'est surtout un truc américain. Ouais. Et donc, pourquoi aux États-Unis il y a une explosion de BNE? Vous avez balayé les trois explications possibles. Il y a un choc technologique, une nouvelle technologie. Donc, il faut absolument investir dans cette nouvelle technologie. Et vous n'allez pas tous développer des modèles d'IA en interne. Donc, vous faites des acquisitions de boîtes qui vous donnent des modèles d'IA. Vous n'allez pas tous investir dans des data centers. Vous allez acheter une boîte qui maîtrise la technologie des data centers. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'argent disponible. Les entreprises ont les moyens.
Le sujet de la profondeur de marché.
Les moyens, elles peuvent payer en actions. Elles peuvent. C'est trois tiers. Hein, c'est les financements, c'est un tiers en actions, un tiers sur le marché de la dette privée, et un tiers par de l'endettement traditionnel. Et puis trois, il y a effectivement l'effet protectionnisme et l'effet coût. Enfin, si vous êtes dans un chimiste européen, vous ne pouvez pas être absent du marché américain. Vous payez votre gaz naturel 4 fois moins cher aux États-Unis qu'en Europe, donc ça vous rentabilise une délocalisation d'activité. Donc ça, c'est les trois explications. Mais c'est surtout un modèle. C'est pas énorme. Il y a quelques opérations spectaculaires en Europe, mais si vous regardez les statistiques que fait EY, etc., c'est beaucoup de petits deals en Europe. Hein. Il y a pas beaucoup de gros deals. C'est beaucoup de petites opérations.
C'est vrai qu'on n'a pas encore vu de deal. Plusieurs dizaines de milliards.
Et beaucoup de deals basés sur des LBO aussi. Donc c'est des deals plutôt de private equity.
Opération à effet de levier, pas l'endettement.
Il y a des deals structurants. Quoi.
Je vais revenir sur le lien politique de concurrence, politique industrielle. Vous avez dit, Raphaël, il serait temps que l'Europe utilise finalement les fusions-acquisitions pour faire de la politique industrielle.
Bah oui, on voit que ça coince à chaque fois. Alors, entre UniCredit, Commerzbank, le SCAF,
alors ça, c'est pas un problème de politique de la concurrence, c'est les États, comme le disait Erwan tout à l'heure, qui
veulent. Il y a aussi un sujet politique là-dedans.
Alors justement, j'en viens au sujet politique. Et si vous me permettez une brève anecdote, quand j'étais à l'autorité de la concurrence, vous le savez, nous avons interdit M6 TF1.
Oui.
On s'est fait beaucoup réprimander. Moi, je pense qu'on a eu raison à l'époque. Je ne sais pas de quoi demain est fait. Pardon, rien n'empêchait le décideur politique, en l'espèce le ministre de l'économie, de dire « c'est très bien le droit de la concurrence ». Mais moi, je ne suis pas le ministre de la concurrence, je suis ministre de l'intérêt général. Il y a un article qui s'appelle le pouvoir d'évocation, qui donne pouvoir au ministre de dire « au nom d'autres intérêts que la concurrence ». Donc, je ne demande pas au ministre de refaire une analyse de concurrence. Les experts ont fait leur travail. Au nom notamment de la compétitivité, de l'emploi, j'autorise la fusion. Que ne l'a-t-il fait ? Pardon, chacun à sa place. Ne demandons pas à une autorité de la concurrence qui n'est pas armée pour cela de faire de la politique, fuse de la politique industrielle. Par contre, pourquoi l'homme politique ne prend pas ses responsabilités ? Et moi, j'ai toujours soutenu l'idée suivante. Pourquoi en Europe, nous n'aurions pas le même système qui existe en France, qui est ce fameux système de pouvoir d'évocation ? La Commission dirait, Alstom Siemens, c'est pas bon pour la concurrence, et je pense qu'elle a eu raison. Regardez, 7 ans après, on a bien 2 géants européens plutôt qu'un, et en plus on a de la concurrence. Par contre, rien n'empêcherait le Conseil européen, en réalité les chefs d'État, de dire écoutez, nous, on trouve que la concurrence, ça n'est pas l'alpha et l'oméga, au nom de la résilience, au nom de la souveraineté, quel que soit l'argument, nous outrepassons la décision de la Commission, mais nous nous assumons la responsabilité. En réalité, les hommes politiques font porter aux autorités de concurrence, c'est-à-dire aux experts, le propre poids de leur impuissance et de leur manque de courage. Mais pardon, je le répète, la fusion M6-TF1, si le ministre l'avait voulu, elle aurait été autorisée.
Très intéressant. Patrick, puis Erwan Lenon.
Il y a un autre sujet qui est l'efficacité de ces opérations de M&A. Et la littérature de recherche que Emmanuel jette un doute quand même.
60%.
Il y a peu de création de valeur. En général, il y a de la destruction de valeur. Il y a peu de deals qui détruit
de la valeur en grossissant.
Vous regardez la valeur de la cible et la valeur de l'acquéreur. Vous faites la somme des deux. Et
+1 ne fait pas toujours
de général, +1, ça fait 1,8 quoi, le plus souvent.
Dans 60% des cas, les fusions sont un échec au sens où elles ont détruit de la valeur. Ça, c'est les statistiques McKinsey, Harvard.
Et alors, l'explication, toujours du même Thomas Philippon, c'est l'hubris des entreprises. Quoi. Les entreprises veulent grossir. Elles veulent grossir. Elles pensent que tête grosse, ça les protège, etc. Et donc, et elles font des acquisitions en dehors de leur domaine d'expertise. Et ça, regardez, par exemple, Meta. Le métaverse, c'est un échec à
échec total.
À dizaines de milliards complet. De dollars pour Facebook. Et donc, il y a ce problème que ce n'est pas forcément bon signe pour l'économie d'avoir un boom des fusions-acquisitions.
Bon, Erwan.
Et quel est le meilleur révélateur de ces échecs? C'est quand il y a de la concurrence. C'est-à-dire que quand les opérateurs qui sont concentrés sont confrontés à de la concurrence, et ça renvoie indirect à ce qu'évoquait Emmanuel tout à l'heure sur la responsabilité des politiques. C'est-à-dire que, moi, je serais peut-être un peu plus critique à certains égards des décisions des autorités de concurrence, mais au fond, ce que dit Emmanuel est absolument juste. C'est-à-dire que, c'est d'abord les autorités de concurrence, elles n'agissent pas librement, en dehors de tout cadre, elles agissent selon le mandat qui leur a été donné par les politiques.
Oui, en qualité d'autorité indépendante.
Ensuite, effectivement, le politique a ce pouvoir d'évocation en France qui était mentionné tout à l'heure. Mais c'est plus simple de désigner l'autorité de la concurrence ou désigner tel responsable, la commission par exemple, que de regarder la réalité. C'est que le problème fondamental de notre économie est qu'elle n'est pas assez compétitive, qu'il n'y a pas de marché unique, on en parlait tout à l'heure, etc. Oui. Et tout ça, ça demande pour y parvenir, que les responsables politiques prennent leurs responsabilités, dessinent un projet, nous expliquent comment on y va, mais on en est encore assez loin.
Mais c'est pas possible. Enfin, l'Europe n'est pas l'Europe, c'est pas une fédération, quoi. Je veux dire. Regardez les éoliennes. Il y a un fabricant éolien compétitif, c'est Vestas, qui est danois. On devrait décider que toutes les éoliennes européennes sont faites par Vestas au Danemark. On devrait décider que le nucléaire est en France, que l'automobile, c'est le sud de l'Allemagne, l'ouest. Et donc, on devrait avoir ces mouvements de la géographie de la spécialité productive, comme aux États-Unis. Mais ça, les gouvernements et les opinions sont
et
pas prêts.
Et ça se heurte aux États-nations.
Bah oui. On n'est pas prêt à accepter des destructions d'emplois dans un secteur.
Encore une fois, la gouvernance inachevée de l'Europe.
Et puis, on a une énorme protection de l'emploi en Europe. Donc, faire des changements dans la structure sectorielle des emplois, c'est extraordinairement compliqué. Alors que c'est très facile, par exemple, aux États-Unis. Donc, il y a beaucoup d'autres obstacles que la concurrence au fait de générer des champions européens.
Bon. Courage et construction européenne, hein, c'est les maîtres mots. Courage, on reboucle avec le début de l'émission. Courage de porter certaines opinions, et puis effectivement, agrandir ce marché européen, l'approfondir, aboutir enfin à cette construction européenne. Merci à tous les trois, Patrick Artus, économiste, conseiller économique de la société de gestion OSIAM, Emmanuel Combes, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à la Schema Business School. Merci à Erwan Lenoant, fondateur de AKA Stratégie, pour cette émission passionnante, disponible en podcast et replay. On se retrouve demain, même heure, même endroit, en direct sur BFM Business. Très bonne journée à tous.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.